bonsoir. Abdelmajid Chekhi, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons pris l'habitude, dans Chronique algérienne, de nous intéresser aux hommes et aux idées qui ont fait l'Algérie. Donc nous avons décidé, depuis le départ de cette émission, de traiter d'éléments de l'histoire et de traiter de l'histoire. Je me souviens, Abdelmajid Chekhi, que la première émission introductive à Chronique algérienne était consacrée à une grande réflexion de votre part sur l'histoire, sur la manière d'aborder l'histoire. Et on avait commencé par la phrase de Nietzsche qui disait que l'histoire était le verdict d'un oracle, que l'on ne comprendrait que si nous étions les connaisseurs du passé, les bâtisseurs du présent et les architectes du futur. Or, aujourd'hui, nous constatons certes un grand intérêt pour l'histoire de l'Algérie depuis les temps immémoriaux, mais quand même avec des attitudes différentes et avec ce grand clivage qui est bien entendu ce que l'on appelle l'histoire dite officielle et l'histoire dite officielle contestée, c'est-à-dire on a à cette histoire officielle un systématisme qui est de contester tous les éléments qui constituent cette histoire. Alors, il y a à la fois les éléments qui, certes, structurent le discours officiel sur l'histoire, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a énormément d'éléments qui sont irréfutables, objectivement irréfutables, et qui ont fait cette histoire, mais que l'on refute au nom du fait qu'ils appartiennent à l'histoire officielle. Alors, tout ce qui est irréfutable de notre histoire est donc désigné comme étant histoire officielle, et par conséquent, subit la contestation systématique. Alors, comment vous, Abdelmajid Chekhi, comment vous voyez tout cela? Comment vous réagissez en assistant à tous ces petits débats, à toutes ces petites contestations, grandes contestations, à ces remises en cause? Comment vous pensez que le discours sur l'histoire ou produit par l'histoire en Algérie doit être structuré? Comment les angles d'attaque, si je puis me permettre, peuvent être installés, établis?
Merci. En vérité, je suis réellement gêné, je suis réellement peiné, parce que il me semble que il y a un état d'esprit qui circule, qui fait que nous sommes obligés de temps en temps de revenir sur ce problème de l'histoire. C'est tout à fait légitime pour tout un chacun de s'interroger sur le passé. Mais ce qui est moins légitime, c'est de jeter la pierre à cette histoire, sous prétexte de schémas et de canevas établis, de préjugés, de regarder l'histoire comme si c'était un éternel recommencement. Et cela nous donne, malheureusement, un comportement quotidien qui fait que ce qui a été fait doit être refait. Nous le constatons dans le comportement de nos administrations, dans le comportement de tout un... De chaque citoyen qui perd confiance dans ce qui est établi. Et ces derniers temps, j'ai eu à constater, malheureusement, auprès de diverses couches de notre peuple, et surtout parmi la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui conteste, c'est la jeunesse qui a cette énergie de vouloir aller de l'avant tout en cherchant des ancrages dans le passé. C'est tout à fait légitime et c'est à son honneur. Seulement, le malheur, c'est que, comme vous venez de le dire, on a tendance à considérer ce qui a été fait, ce qui a été écrit comme étant l'émanation d'un pouvoir. Et donc, même l'histoire, on a tendance à parler d'histoire officielle et d'histoire non officielle. Alors, je crois que ces préjugés-là font énormément de tort à l'établissement d'une culture véritablement historique et digne de ce nom, en partant non pas de schémas établis et de vouloir faire des projections sur le passé, parce que c'est là le grand danger que court toute étude historique. Le grand danger, c'est que les procédures évoluent, les régimes évoluent, les structures même dans leur comportement, dans l'exercice de leurs attributions évoluent. Et il ne s'agit pas de prendre, par exemple, l'État tel que nous le connaissons aujourd'hui, tel que nous le disent les livres de droit et même les livres d'histoire, mais de l'histoire immédiate, c'est-à-dire celle contemporaine que nous vivons. Il ne s'agit pas de prendre ces schémas et de vouloir les projeter dans le passé et dire « Ah non, la nation n'existait pas, l'État n'existait pas », tout simplement parce que les procédures de désignation des structures de l'État n'étaient pas les mêmes. Et quand on vous donne des faits historiques, s'ils émanent d'une autorité officielle, on vous dira tout de suite « Ah non, ça c'est l'histoire officielle ». Eh bien, là-dessus, il faut lever une équivoque, et une équivoque très importante. Il y a en histoire, et là je ne fais que refléter un peu ce que m'ont donné mes lectures. Je ne suis pas un historien, mais ce que je constate, c'est que l'histoire des institutions est officielle, puisqu'elle s'occupe des institutions. Cette histoire, en nous donnant ce qu'ont été les institutions, nous ramène à étudier les textes qui ont présidé à l'élaboration et à la création de ces institutions. De même, l'histoire des dynasties, c'est pratiquement une histoire officielle, puisqu'elle relate le comportement, les agissements, les actes de ces institutions et de ces dynasties. Donc, la classification en histoire officielle et en histoire non officielle est tout à fait artificielle.
Mais, Abdelmajid Chiri, est-ce que vous ne pensez pas que le clivage s'est fait à partir du moment où on a décidé de restaurer l'État national ? En ce sens que là, nous voyons le fait que, à partir du moment où on parle de restauration, c'est qu'il y a eu un État national que l'on veut restaurer. Mais dès lors qu'il y avait des structures administratives pour gérer l'Algérie en tant que colonie, à partir du moment où l'on dit qu'il n'y avait pas d'État national, faisons preuve de sophisme ou de logique, il n'y avait pas d'État national. 62 est arrivé. On va restaurer quoi, étant donné qu'il n'y avait rien? Donc, à partir du moment qu'il n'y a pas d'État national à restaurer, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose d'assez insinueux et qui voudrait faire accroire la thèse selon laquelle, étant donné qu'il n'y a pas d'État national à restaurer, eh ben on continue sur les structures administratives coloniales, c'est-à-dire ne pas couper le cordon ombilical avec l'État métropolitain.
Monsieur Amalou, il me semble que nos chroniques s'appellent « Les hommes et les événements qui ont fait l'Algérie ». Je crois qu'il faudrait peut-être ouvrir un petit dossier « Les hommes qui ont défait l'Algérie » et « Les événements qui ont défait l'Algérie ». Et là, nous comprendrons que, d'abord, l'acception même du terme « nation » et du terme « état-nation » est tout à fait relative. Dans ce qu'elle recouvre, surtout pour notre pays, je ne dis pas que l'Algérie est un pays, je l'ai toujours dit, que l'Algérie était un pays spécial, qui n'obéit pas aux règles d'établissement de tous les, des autres États. L'Algérie est un État comme tous les autres États. Elle a connu son évolution propre, mais dans un environnement qu'elle ne pouvait pas ignorer. Donc, à partir de quel moment peut-on parler de nation algérienne? À partir de quel moment peut-on parler d'État national algérien? Et selon quels critères? Est-ce les critères fixés par Jean-Jacques Rousseau, par Locke ou par les philosophes du siècle des Lumières? Ou est-ce les critères de l'État et les critères de la nation tels que les a sécrétés la nation elle-même? Parce que si nous prenons...
Juste une petite parenthèse. Si nous
prenons, c'est ce qui me révolte en réalité.
Si nous prenons la définition de Rousseau de l'État, Rousseau définissant l'État comme étant l'émanation d'une volonté générale.
Oui.
Et si nous appliquons cette définition générique à ce qu'est l'État ou l'État national algérien, est-ce qu'on peut...
Non, mais il y a une différence entre État et État national.
Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut poser le problème de cette manière et dire, est-ce que l'État algérien est l'émanation de cette volonté générale?
Mais il est tout à fait normal de se poser cette question, et il est indubitablement, il est indispensable, et sans l'ombre d'un doute, de répondre par l'affirmative. L'État algérien est l'émanation de la volonté générale, à quelque époque que vous vous situez. Maintenant, si nous voulons donner droit de citer à l'idée coloniale comme quoi l'Algérie n'a jamais constitué un État, et on a en tête les principes de la Révolution française, en disant, non, puisque ces principes existent, ce sont des principes universels, on ne peut pas les appliquer à l'Algérie, donc l'Algérie ne constituait pas un État. Alors là, je regrette, mais il s'agit d'en finir avec cette tendance à casser l'État, tous les jours, en disant non, jusqu'en 1962, il n'y avait rien. Et donc, l'appel du 1er novembre, en disant la restauration de l'État algérien, a utilisé un terme impropre, il aurait dû dire création de l'État algérien. Et donc, à ce moment-là, l'acte de naissance de l'État algérien aurait été les accords d'Évian et la déclaration d'indépendance le 3 juillet 1962. Ce qui est historiquement faux. Et ce qui est, disons, je ne dis pas pour le confort de ce peuple, non, pour lui rendre justice.
Et pour sa sérénité.
Et pour sa sérénité, il faut absolument affirmer que l'État algérien a bel et bien existé selon une forme qui n'est pas nécessairement celle qui émane de la pensée européenne. Il faut absolument que l'on sache que la forme de l'État est liée à l'évolution de la société elle-même. C'est la société qui se donne des institutions qui sont conformes à ses aspirations, qui sont conformes à son programme, qui sont conformes à son projet de société. Ce n'est pas le contraire, parce qu'étant donné que l'État est l'émanation du peuple, il ne peut pas être l'émanation d'autre chose. Il ne peut pas être importé, si nous voulons utiliser un terme assez courant, que je n'aime pas d'ailleurs, parce que l'importation, cela veut dire calquer.
Il peut y avoir des influences.
Il y a toujours des influences. La première constitution du monde, elle est carthaginoise. Et Strabon a écrit des pages merveilleuses pour nous présenter cette constitution. Et c'est cette constitution qui a servi à la création de l'État grec. Vous voyez que, pourtant, les Grecs considéraient tous les étrangers, les considéraient comme des barbares. Donc, le terme avait pris par la suite un sens péjoratif, mais au départ, il n'avait aucun sens péjoratif.
C'est tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la cité.
Tous ceux qui se trouvaient à l'extérieur de la cité, tous les étrangers. Eh bien, les Grecs ont bel et bien cherché à améliorer leur système en faisant appel à d'autres cultures. Les Grecs n'ont jamais nié que leur savoir avait pour point de départ le savoir égyptien. Ce n'est un secret pour personne. Et on n'en fait pas toute une tartine. Mais on a la force d'un peuple et la force d'une culture, c'est de pouvoir recevoir le meilleur de ce qui existe chez les autres, de pouvoir l'assimiler et en faire quelque chose qu'on s'approprie et qu'on fait évoluer. Voilà, les relations entre cultures se font comme ça. Donc, au niveau des institutions, au niveau des États, ce sont des expériences qui ont vu le jour à droite et à gauche, et les États, les institutions, j'allais dire, font une certaine coopération technique et coopération culturelle. Bon, cette coopération, elle est diffuse, elle n'est pas instituée, elle n'est pas... Mais elle existe bel et bien. On cherche à améliorer son système en voyant comment fonctionne le système du voisin ou de l'ami, ou même de l'ennemi.
Alors justement, est-ce que la manière dont... est-ce que le problème ne vient pas au niveau de l'interrogation que l'on peut se poser sur l'histoire et la manière dont on interroge l'histoire? Est-ce que le problème ne vient pas justement du fait d'anachronisme, étant donné qu'on part de projections que l'on fait vers le futur et que par la suite nous allons essayer de trouver ou d'interroger des réponses ou d'interroger l'histoire de manière à justifier ou à trouver des soubassements à ces projections dans le futur. Et partant du fait que peut-être il y aurait des divergences s'agissant de ces projections vers le futur, cela entraînerait effectivement une manière d'interroger l'histoire qui serait...
Bon, interroger l'histoire est une opération tout à fait légitime et tout à fait normale. Tout à fait normal dans la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous avons eu la chance, nous avons eu le bonheur d'avoir eu un cursus militant très long. Ce cursus nous a appris un certain nombre de choses. Il nous a remis progressivement en selle, c'est-à-dire qu'il a remis notre peuple et notre pays, il a remis dans le contexte international, progressivement jusqu'à la consécration de son indépendance. Mais cela a permis aussi de jeter les ponts vers un passé qui a été oublié, qui a même été dénaturé. Ce que l'aspect positif dans tout cela, dans ces interrogations, c'est que cela permet de relancer un certain nombre de débats qui avaient été oubliés. Mais le danger dans tout cela, c'est justement cette tendance à vouloir refuser de voir les évidences que nous donne l'histoire. Pourquoi chercher des évidences ailleurs? Partir de ce qui existe et s'interroger sur le cheminement qui a permis à ce qui existe aujourd'hui d'être ce qu'il est. En le mettant sous le feu de la critique, mais de la critique constructive. Ne pas détruire. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que on prend une période ancienne et on prend des critères tout à fait modernes. Je dis modernes, bien que ce soit des critères déjà dépassés, quelque part dans le monde. Mais nous, nous nous attachons à ces critères-là. D'accord, l'évolution de notre évolution nous a amené à ces critères-là. Mais ces critères-là, je n'ai pas le droit. Et je n'ai pas le droit, et je le redis, je n'ai pas le droit de les projeter dans le passé comme un moule dans lequel je veux mettre mon passé.
Et à partir du moment où le moule, où ce passé-là ne correspond pas...
On dit non.
Alors il n'existe plus.
Alors il n'existe pas. Alors, c'est là où nous faisons un affront à toute notre histoire en voulant absolument y enfoncer des coins qui la dénaturent. L'État national, si nous le comprenons le plus simplement du monde, une population, un territoire déterminé, un sentiment qui unit cette population et des institutions qui travaillent pour le bien de cette situation, de cette société. Voilà la définition la plus simple d'un État national. Eh bien, cet État national a existé en Algérie depuis les temps les plus reculés. Pourquoi voulez-vous que j'aille chercher les critères de l'État-nation? Parce qu'il y a une différence entre l'État national et l'État-nation. Et là, je crois que l'objectif diffus, qui n'est pas avoué, c'est justement de faire admettre un nouveau type de société par le biais de la connaissance historique. Alors, au moins, ayons la décence de considérer notre histoire comme une évolution d'un système socio-économique et politique qui n'est pas nécessairement celui d'X ou d'Y. Je ne dis pas que nous avons un système propre à nous, ce n'est pas vrai. Aucun système aujourd'hui ne peut se prévaloir d'être un système créé par une société et pour une société déterminée et ne pouvant pas servir ailleurs. Seulement, la force justement des sociétés et des peuples, c'est de pouvoir être assez ouvert pour permettre l'évolution des idées, permettre l'évolution des hommes, sans casser, sans anéantir les ancrages nécessaires de l'histoire nationale.
Ben, Abdelmajid Chérif, je pense que nous allons, pour ce soir, arrêter, étant donné le temps qui nous est imparti. Donc, partant sur cette idée, que pensez-vous qu'on pourrait éventuellement traiter dans nos prochaines chroniques algériennes, toujours dans cette même perspective, peut-être revenir sur quelques grands moments de cette histoire, sur quelques grands personnages?
C'est absolument nécessaire. Nous devons reprendre l'étude de certains personnages. Et je crois que nous pouvons d'ores et déjà donner rendez-vous à nos auditeurs, puisque nos chroniques concernent notre pays. Nous devons nous faire un devoir de traiter d'hommes et d'événements qui ont essayé d'anéantir ce pays, pour pouvoir donner la mesure entre ce qu'ont fait les Algériens pour leur pays, mais également ce que les autres ont fait pour le détruire. Je crois qu'il faudrait essayer de chercher également à faire connaître. Ce n'est pas pour leur faire de la publicité, mais sur le plan de la connaissance historique, c'est important. Nous devons connaître également les hommes qui nous ont fait du tort.
Abdelmajid Chérif, le rendez-vous est pris, et rendez-vous est pris aussi pour mercredi prochain sur les ondes de la chaîne 3 de 22h à 22h30. Bonsoir.
Bonsoir. Merci.